Bonjour à tous.
Alors, j'essaie de m'enregistrer pour que vous puissiez réécouter. Je vais commencer par un verset de Josué 1, le premier chapitre de Josué au verset 9, qui dit « L'Éternel s'adresse à Josué, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Je vais encore prier. Dieu Père, on veut te remercier parce que tu es là. Parce que tu es là ce matin parmi nous, que tu nous fais cette promesse, tu fais cette promesse à tes enfants d'être là partout où nous allons. Je te prie de nous donner du courage et de nous fortifier pour combattre le combat que tu veux qu'on combatte. Voilà, permets-nous d'écouter encore une fois cette parole qui nous équipe pour vivre une vie sous ton regard. Amen.
Amen.
Un des clichés du cinéma hollywoodien aujourd'hui, c'est le discours d'avant la bataille. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être du discours du général Patton, dans un film Patton par exemple, Maximus dans Gladiator, Léonidas dans 300 plus récemment, discours plein de peps, Aragorn devant les portes du Mordor, il y en a dans tous les styles, hein. Ou encore William Wallace, alors peut-être le plus célèbre dans Braveheart. Et si vous êtes plutôt sport, vous avez en tête un capitaine, un entraîneur qui à la mi-temps, ou à un quart-temps, c'est plutôt ça que j'ai en tête, d'un match fait un speech, un discours qui va changer le cours d'un match, qui va donner du courage et de la justesse aux actions de ses coéquipiers par la suite. Notre histoire est marquée par des grands discours. Vous connaissez tous l'appel du 18 juin, peut-être. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, 18 juin 1940. Il a appelé tous les Français à résister, à avoir du courage, à se mobiliser. Et c'est un texte de ce genre-là qu'on va lire aujourd'hui, un texte d'Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je lis. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée d'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Alors c'est un texte bien connu. La plupart d'entre nous le connaissent, j'imagine. D'autant qu'il y a presque un an, ça fera un an dans une semaine, Joël avait prêché sur ce texte. Et je m'excuse, je n'ai pas apporté mon armure, hein, je le dis tout de suite, mais on y reviendra. On va terminer avec aujourd'hui cette série sur l'Épître aux Éphésiens. On a fait 8 ou 9 prêches, c'est quelque chose comme ça. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que vient faire ce texte? Pourquoi Paul conclut sur un texte qui est quand même un peu original, hein. On y revient souvent, peut-être parce qu'il est original. dans sa manière de présenter les choses, cette lutte. Et alors, en fait, comment on en arrive là? Il y a Éphésiens, c'est deux grandes parties. Première partie, trois premiers chapitres, où Paul va exposer quelle bénédiction spirituelle on a en Jésus-Christ, en tant que chrétien. Tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, et en particulier deux choses. Le fait d'être sauvé par Jésus-Christ. Nous qui étions morts dans nos fautes, nous avons été ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Le châtiment, la colère de Dieu était sur nous, et Jésus nous en a délivrés. On a été donc ressuscités, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est réconciliés avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Alors, on était dans une situation de conflit les uns avec les autres et devant Dieu. Et l'œuvre de Jésus aussi nous réconcilie tous ensemble. Ça, c'est un peu l'exposé des trois premiers chapitres où Paul a envie que les Ephésiens se saisissent de ces vérités pour ensuite les vivre. C'est un peu ce qui suit avec trois chapitres. Et là, alors, on a vu, Mamie nous a présenté le fait de marcher dans l'unité en tant que l'Église. C'était une des conséquences logiques de l'œuvre de Jésus. Christophe ensuite nous a parlé du fait de vivre une vie nouvelle en Christ, de revêtir cet homme nouveau. Jérémie nous a parlé de marcher dans la lumière. Et la semaine dernière, on a parlé de la soumission à Christ dans différents rôles. J'espère que vous avez fait vos devoirs d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. Marcher donc dans la soumission à Christ, dans nos différents rôles. Et on arrive et ça s'enchaîne en effet. Enfin, mes frères et sœurs, donc il y a cette dernière partie que j'ai appelée donc le combat spirituel. On est donc dans un discours, je vous disais, de type avant la bataille, avant le match, et on a besoin de savoir différentes choses. Il y a différents éléments, ingrédients qu'il y a généralement dans ces discours. Déjà, quel est le type de combat qu'il y a à mener? Effectivement, si on a à faire de la boxe ou du judo, il ne va pas y avoir les mêmes choses à faire. Il ne faudrait pas se tromper, ça ferait des ordres. Quel type de combat? Ensuite, quel est notre adversaire? Qui est notre adversaire? Est-ce qu'il est fort, rapide, rusé? Qu'est-ce qu'il a comme passif? Quel est l'équipement qu'on a à disposition? Les armes? Et enfin, quel est le terrain de ce combat? Quel est l'endroit où va se tenir principalement ce combat? Premièrement, le combat spirituel. Tenir ferme. Alors, Paul commence par nous dire ce que n'est pas ce combat. On l'a dit, Mamie vient de le dire, ce n'est pas contre l'homme, c'est-à-dire la chair et le sang. Dans certaines versions, c'est la chair et le sang. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Et Paul donc le dit tout net, notre combat n'est pas contre les hommes. C'est rassurant déjà. Quand on dit on est amené une sainte guerre, ça se dit dans les vieux chants, on n'ose plus trop le dire aujourd'hui. Hein. Cette sainte guerre n'est pas contre les hommes. Elle est dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est un terme qui revient plusieurs fois dans Éphésiens. C'est ce monde invisible qui est pourtant bien réel et qui n'est pas encore complètement révélé pour nous tous. C'est dans le Christ qu'on est assis dans les lieux célestes. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une lutte qui est spirituelle, qui va avoir lieu peut-être principalement dans nos pensées, dans nos esprits, et dans le monde des esprits. Il y a ce verset de 2 Corinthiens 10, verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Nous ne devons pas lutter contre les hommes, nous devons lutter pour les âmes. Je pense. Nous ne devons pas lutter contre les hommes, nous devons lutter pour les âmes, à commencer par la nôtre. Le but de Dieu, tel qu'il est bien exposé au chapitre 1 d'Éphésiens, répété à plusieurs reprises, c'est que nos cœurs, les cœurs du monde entier, le glorifient. Nous sommes appelés à tout cela afin que nous célébrions sa gloire. Et alors, il y a deux conséquences très pratiques que j'ai notées pour cela. D'une part, nos ennemis terrestres, pour ceux qui en ont, ne sont pas nos vrais ennemis. Nos ennemis terrestres ne sont pas vraiment nos ennemis. Je ne sais pas si vous avez régulièrement des nouvelles de portes ouvertes. Certains en ont. On pouvait recevoir des mises à jour par mail. Et je suis frappé, je trouve ça frappant que systématiquement, enfin très souvent en tout cas, les chrétiens persécutés sont prompts à pardonner à leurs bourreaux. Disons, mais je ne vais pas faire l'étalage de ce qui se passe, c'est des choses vraiment glauques et affreuses de ce qu'on fait à nos frères et sœurs dans le monde. Mais très souvent, très tôt dans le témoignage, on a « mais je ne lui en veux pas, je prie pour son âme ». Parce qu'ils comprennent bien que cette lutte, elle est spirituelle. Et ça a commencé avec Jésus. Hein. Père, pardonne-leur, car ils ne savent que ce qu'ils font. Étienne dit aussi « ne leur impute pas ce péché ». On comprend que cette lutte est spirituelle et que c'est l'âme du persécuteur qui doit être secourue premièrement. Ou peut-être la nôtre. Éventuellement, si on est en conflit avec quelqu'un, c'est peut-être nous le problème. C'est peut-être notre âme. C'est peut-être dans notre âme qu'on a besoin de lutter. Merci. Alors, voilà. Pensons à ceux qui nous insupportent, qui nous, peut-être nous ont fait souffrir. Est-ce qu'on les considère comme nos ennemis, ou est-ce qu'on voit la lutte spirituelle qu'il y a derrière? Est-ce qu'on prie Dieu pour qu'il fasse la conquête de leur âme, qu'il les délivre du péché, ou que nous-mêmes nous délivre du péché et de la mort? Donc, je vous invite à penser à un camarade, à un collègue, à peut-être à quelqu'un de votre famille, peut-être un voisin, qui se comporte avec vous comme un ennemi. Et dites-vous, ce n'est pas mon véritable ennemi. Ensuite, si nos ennemis ne sont pas terrestres, nos vrais ennemis, nos luttes non plus ne sont pas terrestres. Ce ne sont pas nos vraies luttes. Notre vraie lutte, elle est spirituelle. Et bien sûr, alors, on parle beaucoup de lutte aujourd'hui. Hein, on est dans une ère où il faut être rebelle. De toute façon, c'est le nouveau conformisme. On a envie que des choses changent, ça c'est sûr. On veut, alors là, il y a un conflit entre ceux qui veulent l'ordre et ceux qui veulent la justice. Deux très bonnes aspirations. Et dans la mesure où on peut faire des choses bien, on doit les faire. C'est pas une question de se retirer de toute chose. Mais notre première lutte, elle est d'abord spirituelle. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une lutte matérielle, charnelle, en n'ayant pas réglé les problèmes spirituels? Si on cherche la justice mais avec un cœur corrompu, qu'est-ce qu'il en sort? Ça, c'est l'hypocrisie. Alors, quel est le véritable objectif de nos luttes? Qu'est-ce qui nous travaille aujourd'hui? On se dit, ah là là, ça, il faut que. Qu'est-ce qui nous travaille? Quel est le véritable objectif? Est-ce qu'il faut que Dieu soit glorifié? Est-ce qu'on cherche à ce que les âmes glorifient Dieu? Ou est-ce qu'on cherche à être rétabli par rapport aux hommes? Je ne sais pas. D'ailleurs, Paul écrit cette lettre de prison. Et on n'entend jamais dire « je vais me battre pour être libéré ». Quand il a eu l'occasion d'être libéré, il ne s'en est pas privé. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais il a essayé à certaines reprises d'éviter d'être capturé. Mais là, ce n'est pas le sujet pour lui. Même dans les chaînes, il agit pour annoncer l'évangile. Il demande à ce qu'on prie « priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile ». Parle de quelqu'un qui est en prison parce qu'il annonce l'évangile. Et il dit prier, entre guillemets, pour que j'aggrave mon cas, pour que je sois ferme. Alors au quotidien, même dans les petites choses, dans mon caractère, dans mes attitudes, dans mes raisonnements, au fond, quel est mon véritable combat? Est-ce que je suis dans ce combat spirituel? Un mot d'ordre pour cette lutte. Répétez plusieurs fois aussi, tenir ferme, fortifiez-vous, tenez ferme, ça c'est un truc qui revient souvent dans la Bible. Tenir ferme à quoi? Question que je vous pose. Notamment au Seigneur, ouais. Être prêt, être dans la puissance, dans le Seigneur. Si nous sommes chrétiens, c'est marrant, hein, c'est, on se dit, allez pour la bataille, on a l'impression qu'on veut conquérir quelque chose. Mais en fait, ici, c'est pas le cas. Si nous sommes chrétiens, nous dit Éphésiens, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes même ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Par conséquent, nous avons tout dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas encore pleinement révélé, mais c'est là-dedans qu'on doit tenir ferme. C'est en Jésus-Christ que nous devons marcher en attendant que la victoire soit effectivement révélé. On est appelé à persévérer, à tenir bon. C'est une course d'endurance. Dans une course d'endurance, dans un sprint, quand on tombe, c'est fini. Dans une course d'endurance, on se relève et on reprend le combat. Et est-ce que nous, notre problème, c'est est-ce qu'on doit se relever ou peut-être juste qu'on doit se réveiller? C'est une question que je me pose pour moi-même. Est-ce que je suis dans ce combat ou est-ce que je me laisse juste vivre? Car la Bible nous le répète, je vous cite 1 Corinthiens 16, verset 13, « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Maintenant, on va voir, on a vu quelle est notre lutte, une lutte spirituelle, où il faut tenir ferme, une lutte difficile. On va voir quel est notre adversaire. Adversaire, hein, quel est notre adversaire alors? Si vous avez lu le texte, le diable. Et alors dans la Bible, hein, si vous voulez faire un peu de théologie systématique, il y a trois adversaires. La chair, c'est-à-dire tous nos désirs mauvais, tout ce qui pourrait nous être une impulsion vers des désirs mauvais, en fait, notre nature corrompue. Le monde, c'est l'influence du monde, tout ce système humain, Babylone, qui veut s'opposer à Dieu, tous les hommes unis contre Dieu. Mais notre ennemi ultime, l'ennemi dont il est question dans ce passage, c'est le diable. Et toutes les puissances spirituelles qui sont derrière lui. Paul fait toute une liste qui doit nous, quelque part, nous impressionner aussi, nous dire, voilà, je ne vais pas y arriver tout seul, ça c'est clair. Quand j'ai dit, j'ai écrit le diable, j'ai été tenté de dire Satan. C'est bien la même personne, le diable et Satan. Mais le diable, ça fait un peu petit bonhomme en rouge, avec les cornes, avec la fourche, qui ricane. La Bible ne dit pas tout ça. Elle est beaucoup plus prudente, plus sobre. On voit le diable de la Genèse à l'Apocalypse, mais il n'aurait pas fait cette espèce d'étalage superstitieux. Et je pense que c'est une ruse aussi d'aujourd'hui, une ruse de Satan, de se déguiser en un personnage ridicule pour s'assurer qu'on ne croit pas en lui. Baudelaire a dit beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être cette citation. « La plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. » La plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. Alors, la Bible atteste l'existence des esprits mauvais. Eux, ils sont là pour combattre Dieu avec acharnement. Ce sont des créatures. Dieu est largement au-dessus d'elles, il n'y a pas de problème. Mais elles existent vraiment et elles veulent s'opposer avec puissance contre Dieu, avec acharnement, pour tout ce qu'il fait. C'est assez drôle, dans notre culture aujourd'hui, en Occident, ces choses-là, elles sont un peu ridiculisées. Mais lorsque on voit comme l'homme peut s'abaisser à des infamies, comme il peut aller loin dans la violence, dans les horreurs. Il y a, je cite Luc Ferry, un philosophe athée, qui avait été ministre de l'éducation il y a quelque temps, il dit lui-même qu'il est séduit par cette histoire, cette notion de Satan, cette notion d'un mal absolu. Parce que quand on voit ce qui se fait dans le monde, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Même pour un athée comme lui. Enfin, toujours est-il que la Bible nous l'atteste. Et alors, comment agit le diable? Bien sûr, quand on se dit l'action des esprits mauvais, l'action du diable, on pense très vite à des choses surnaturelles. À des choses qui... des manifestations étranges, films d'horreur, etc. Et effectivement, il y a des cas de démonisation où Satan va avoir une attaque frontale, visible, violente. Mais je crois que la plupart du temps, il n'agit pas comme ça. Dans ce texte, on va lire le verset, il est question de méthode. Il dit... Non, je me fais à l'envers. Afin de pouvoir tenir ferme, contre les manœuvres du diable. C'est le rusé. Il est comme un serpent, silencieusement, sur le rocher. On n'entend pas un serpent avancer. Il est le prince de la puissance de l'air. Et son terrain d'action favori, il me semble que ce sont nos pensées. Il va chercher la brèche. Il n'a pas une toute puissance contre moi, il va juste chercher à mettre de l'huile sur le feu, à mettre son petit grain de sel. Un exemple qui nous est donné dans Éphésiens, justement, c'est au chapitre 4, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. La colère, c'est une occasion pour le diable de mettre son grain de sel, de dire ah, voilà ce qu'il t'a fait, tu ne peux pas le pardonner. Et l'amertume arrive, et derrière l'amertume, l'ingratitude. Et on devient piégé, et on se dit mais moi, je veux bien ça, et on tombe dans le péché. C'est des manœuvres classiques où, très subtilement, on va être tenté, accusé, jusqu'à se retrouver dans ses griffes, et là, il va nous salir. Il va nous salir, une fois qu'on est à sa merci. C'est le tentateur et l'accusateur. Quand vous vous sentez fort, il va dire « Aucun risque, vas-y, fonce. Allez, c'est rien du tout. » Quand vous vous sentez faible, il dit « Tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras jamais. Dieu ne t'aime pas. » etc. Il veut nous mentir, encore mentir. Il ne va pas se lasser jusqu'à la fin du temps. Mais, justement, il y a une fin. Il est vaincu, c'est pour ça qu'il se déchaîne. Éphésiens nous dit aussi, je prie, alors c'est au chapitre 1, je prie pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. La victoire, elle a été acquise par Jésus-Christ à la croix. Et on est donc dans cette phase de transition, dans cette phase où cette lutte a lieu dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, mais elle est déjà gagnée. On est un peu comme en 1944, je reviens encore un petit bout d'histoire. En 1944, l'Allemagne nazie recule sur tous les fronts. C'était la Seconde Guerre mondiale, donc. Les Russes foncent, ils ont repris l'essentiel de l'Europe de l'Est. Au sud, les Alliés en Italie ont débarqué. Et en le 6 juin 1944, les Alliés débarquent, le plus grand débarquement de l'histoire. Autant dire que pour l'Allemagne, c'est fini. Mais il a fallu presque un an avant la fin des hostilités. Un an de combat, un an de contre-offensive, un an de mort et de pleurs. Un an de combat acharné. Et de la même manière, les forces du diable combattent avec acharnement. Paul parle de flèches enflammées. Hein. On a ce bouclier de flèches enflammées qui tombe. Et on a le privilège en fait, d'être associé à la victoire dans ce combat. Alors, on va parler de nos armes maintenant. On a vu le type de combat, notre adversaire, et on parle des armes. Je vais un peu moins développer que Joël la dernière fois, donc je vous invite aussi à réécouter sa prédication qui est sur le site. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque et épée. Alors, il y a plein d'informations très intéressantes sur l'évolution de l'équipement du soldat, des choses notamment sur Wikipédia, je vous le conseille. On peut dire c'est une image qui devait bien parler au premier destinataire de l'épître. Si vous avez lu Astérix, vous voyez très bien de quoi ça parle. Et même d'un autre côté, en fait, j'ai réalisé que on avait une reproduction contemporaine assez fidèle. On appelle ça la police anti-émeute. Malheureusement, alors pour eux, pour nous, on les voit un peu beaucoup en ce moment. Sur nos écrans, ils ont vraiment ce combat de corps à corps, une ceinture, on va avoir nos équipements, un gilet pare-balles, des rangers, un bouclier en polycarbonate qui couvre bien le corps, un casque de sécurité qui ressemble vraiment au casque romain, et donc une matraque plutôt qu'une épée, tant mieux. Et voilà, on a bien cette image d'équipement de combat de corps à corps. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces armes sont citées dans l'Ancien Testament. Certaines, beaucoup de fois, comme l'épée et le bouclier, ça revient tout le temps. Quand on fait le zoom, on s'en rend compte. Et beaucoup, enfin même toutes, sont appliquées à Dieu ou éventuellement et au Messie. Toutes ces armes, alors je vous cite juste un exemple, Ésaïe 52, verset 7, plutôt 59, verset 17. Il enfile la justice comme une cuirasse, on parle de Dieu enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Ça vous dit quelque chose?
Ah.
Alors là, c'est vraiment Paul qui s'en inspire. Enfin, ces armes sont les armes de Dieu. Si nous sommes appelés à les revêtir, c'est parce qu'il nous les donne. Quand on va à l'armée, la première chose qu'on fait, je ne l'ai pas fait, mais on m'a raconté, on va aller chercher son paquetage, son équipement. On commence par faire un tour aux différents stands, on récupère chaque élément de son équipement. Cet équipement nous est donné par Dieu. Ce sont des dons de Dieu. Et heureusement, hein, après le petit discours sur l'adversaire, qu'on a les armes qui viennent de Dieu. Parce que sans ça, on est mal. Seul Dieu peut vaincre. Et c'est donc on est dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. C'est important parce que, à titre personnel, longtemps j'ai cru que j'étais sauvé par Jésus-Christ, mais après, la vie chrétienne, ça allait être mes propres efforts. Ça allait être moi qui lutte et oh là, c'est compliqué, c'est difficile. Comme si l'évangile il s'arrêtait au salut, comme si l'évangile c'était juste le fait d'être sauvé et pas non plus d'être transformé. L'évangile, c'est l'évangile qui nous sauve et c'est l'évangile qui nous transforme. C'est la vérité de l'évangile qui nous sauve, la vérité de l'évangile que nous mettons pour combattre autour de notre taille. La justification en Jésus, ça protège notre vie. C'est notre cuirasse qui nous protège. Les chaussures. Les chaussures, c'est l'évangile que nous voulons annoncer. C'est l'évangile qu'on est censé vivre. C'est le zèle que nous donne l'évangile de paix. De paix pour les hommes, hein. pas pour Satan. C'est la foi en Jésus qui nous protège des flèches du salut. C'est mon bouclier. C'est son salut justement qui me couvre la tête. Comme un casque. J'ai oublié une arme, l'épée. C'est l'épée de l'évangile que nous dégainons pour repousser Satan. Le diable n'a pas peur de nous, hein, que ce soit clair. Il n'a pas peur de nos efforts, de nos résolutions. Si c'est fait juste par nos propres forces, il s'en rit. Mais quand il y a Dieu derrière, il tremble. Cette force donc est un don de Dieu. Et c'est pas non plus, on ne va pas attendre... ça tombe sans qu'on s'en soucie. On doit s'en saisir. On est appelé à revêtir cette armure. Mais ce n'est pas le fruit de nos œuvres. C'est Dieu qui manifeste sa puissance. Alors, j'ai discerné trois grands types d'armes dans ce passage. Alors, on dit les armes offensives et défensives de la justice. Hein, c'est même Paul qui le dit. J'ai l'impression qu'il y a les ceintures et les chaussures qui vont ensemble. Cette idée d'être prêt quand on est saint, c'est-à-dire qu'on est prêt à y aller, quand on chausse ses chaussures, on est prêt, on n'est pas tranquille à la maison peinard. On n'est pas installé là pour toujours. On est appelé à être en campagne. Ici, on est en campagne. D'un autre côté aussi, ce qu'ils ont en commun, c'est le fait de ne pas avoir sa ceinture pour marcher, pour courir, ou le fait de ne pas être chaussé. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, c'est un symbole de honte. C'est un symbole d'humiliation. On n'est pas dans le coup, on est éventuellement perdant dans ces cas-là. Donc, cette vérité à laquelle on doit être attaché, la vérité comme une ceinture, ça nous appelle, ça nous invite aussi à éviter le mensonge. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, Satan, son job, sa spécialité, c'est le mensonge, depuis le début, depuis Genèse 3. Il ment. Nous, pas de compromis. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, verset 37. Cuirasse, casque et bouclier, des armes de protection. Une grande partie de notre combat consiste à résister, tenir ferme aux attaques, aux flèches enflammées. En Christ, nous sommes justifiés, nous avons le salut par la foi. Rappelons cela au malin. J'ai une attaque. Je suis justifié, je suis protégé par ma foi en Jésus-Christ, je suis sauvé par lui. Et enfin, l'épée, la seule arme offensive de cette panoplie. L'épée, c'est souvent une image de jugement dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu est une arme redoutable, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme redoutable quand l'Esprit, justement, nous ouvre l'intelligence pour nous en servir à propos. Que ça soit pour notre âme, on va trop vite vers l'âme de l'autre, déjà pour notre âme, ou pour l'âme de notre frère ou de notre personne de ce monde. Vous vous souvenez de la tentation de Jésus ? Satan, le diable est venu tenter Jésus lorsque Jésus était faible dans le désert. Et Jésus l'a repoussé trois fois avec trois citations de quel livre ? Deutéronome. Deutéronome. Citez-moi trois versets de Deutéronome. Ah, voilà. Je suis prêt pour que il y en a quelques-uns qui peuvent répondre. Mais tout ça pour dire que voilà, est-ce que vous êtes équipé de cette épée, hein, cette parole de Dieu qui est d'ailleurs cachée derrière toutes ces armes en fait, hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, bien sûr, on peut citer du coup Jésus pour citer Deutéronome. C'est pas des formules magiques, hein, il ne s'agit pas de citer ah là je t'ai lâché un verset. Satan aussi utilise des versets. Mais voilà, c'est ces versets qu'on peut s'appliquer et tenir ferme. Dernier point, quel est ce terrain où se joue le combat ? Le dernier paragraphe de ce texte, vous l'avez lu avec moi, il parle de la prière. C'est important de connaître le terrain en son combat, que ce soit en sport. Il paraît que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo parce qu'il y a eu un problème de cartographie. Il avait confondu deux chemins. Et il avait aussi mal appréhendé les choses à cause de ce terrain qui descendait et qui cachait une grande partie de l'armée ennemie. Entre autres. Hein, mais le terrain, c'est hyper important. Vous savez, s'il y a des tennismen ici. Et où est-ce que joue notre terrain ? Il me semble vraiment que le terrain principal de cette lutte, c'est la prière. On dit parfois que c'est une septième arme, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment là qu'a lieu l'essentiel des combats. Qui trouve que c'est difficile d'être constant dans la prière ? Vous pensez que c'est un hasard ? Et en plus, pour nous-mêmes, on a parfois tendance à prendre ça un peu à la légère, comme si c'était une option, un petit plus. Mais quand l'Église prie sincèrement, le diable tremble. La prière du juste est d'une grande efficacité. Mais ceci est assez de Jacques. C'est vital pour nos cœurs et sans hypocrisie, sans une religiosité, encore une fois, c'est pas des formules magiques, mais devant Dieu, la prière est puissante parce que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'éternel, le Seigneur des armées, lorsque nous prions, il nous écoute. Prions. Il y a plein de sortes de prières qu'on peut faire. On peut faire des prières courtes, notamment quand on sent le danger, quand on sent la tentation, le découragement. Priez des versets de la Bible. Priez la Bible. Venez avec la parole de Dieu pour plaider auprès du Père. C'est ce que tu m'as dit. On peut commencer nos journées en priant, on peut les finir en priant, on peut prier au début du repas. Pourquoi pas à la fin du repas ? Prier à haute voix, prier dans le silence, prier spontanément, de manière organisée. En face à face, à plusieurs. En face à face, par téléphone ou SMS, par WhatsApp. Il y a des groupes de prière par WhatsApp, c'est super. En chantant ou en pleurant, prier. Utilisez le Notre Père, c'est fait pour. Soyez persévérants, soyons persévérants et attendons-nous à recevoir de Dieu. Il y a deux prières qui sont soulignées, deux sujets de prière dans ce texte. Le premier, prier pour tous les saints. Et on a besoin de prière entre frères et sœurs. J'espère que vous priez les uns pour les autres. Ça, on s'en rend compte avec le conseil. Qu'est-ce qu'on a besoin de prière quand on fait le bilan ? On traverse toutes sortes d'épreuves et on peut prier aussi à distance. Je reprends l'expression de Joël, la prière c'est un missile balistique intercontinental, c'est Dieu qui agit, il ne s'embarrasse pas de la distance. Et là, Paul les invite à prier à distance, prier pour l'annonce de l'évangile, deuxième sujet de prière. Que ton nom soit sanctifié par tous les hommes, prier pour que chacun nous puissions vivre cet évangile et l'annoncer avec assurance. Comme Paul. Si l'apôtre Paul comptait sur les prières des Éphésiens, combien plus nous, nous devrions compter sur les prières de nos frères et sœurs. Et là, encore une fois, la prière n'a pas de limite de distance. La première chose que demandent les missionnaires, c'est compris pour eux. Cette lutte est collective. Vous avez remarqué, ce texte, nous, on a tendance à prendre les trucs au singulier, hein, parce qu'on est des Français au XXIe siècle, tout est autour de moi. Mais il dit « vous » tout le temps dans ce texte. Un légionnaire est dans une légion. Paul s'adresse à tous, tout le monde du texte, au pluriel. Donc c'est en Église qu'on doit combattre, entre frères et sœurs, ensemble. On a des progrès à faire. Il faut qu'on insère ça dans la vision d'Église, hein, dans notre plan d'action en tout cas. C'est l'Église qui combat, et quand elle combat, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille ? Ou est-ce que nous dormons ? Le combat est spirituel, mais il est réel. On a cité ce texte, je le répète, 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Soyons ceux qui combattent. Équipés par Dieu lui-même, tenons ferme dans son évangile, en Jésus-Christ. »